Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town, good to me. Oh, yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh, yeah. She says loving early in the morning. Just for me. Oh, yeah. She says loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, oh yeah. She's all right. I don't know she's all right. She's all right. She's all right. Oh yeah. Oh yeah.
Mémoire de guerre. Une émission consacrée au centenaire de la guerre 14-18. Retrouvez Mémoire de guerre tous les seconds mercredis de chaque mois de 14h à 15h.
Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Mémoire de guerre sur RPL, nous sommes ensemble jusque 15h. C'est une émission un peu spéciale puisqu'RPL a fait le choix de participer à la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Au travers d'interviews, de rencontres, de témoignages, nous vous parlons de cette période historique. Et aujourd'hui, pour ce tout nouveau numéro, je suis en compagnie de Tristan et Aurélien qui sont allés sur le terrain. Bonjour.
Bonjour.
Durant cette prochaine heure sur l'antenne de RPL, on va vous parler des médias pendant la Première Guerre mondiale avec Jérôme Roudier, qui est enseignant-chercheur en histoire à la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université catholique de Lille. Aussi, on partira en direction de Roubaix, comment cette ville a vécu les années 14-18. C'est l'écrivain Philippe Poiret qui va nous en parler. On découvrira également deux nouvelles lettres de Poilu, une anecdote. Et Mémoire de guerre, ça se termine comme toujours par un agenda mensuel. Les événements à ne pas rater dans la région dans le cadre des commémorations de cette grande guerre. Et on part tout de suite à Roubaix avec toi Aurélien.
Exact. Alors moi, en fait, je suis allé interviewer Philippe Poiret, qui est un écrivain nordiste passionné d'histoire, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages historiques consacrés à la région et plutôt essentiellement la ville de Roubaix.
Alors, Chronique roubaisienne, effectivement, c'est une collection que j'ai commencée. Il y a trois ouvrages qui sont parus. L'idée, c'est de recouper des articles de journaux, de différents points de vue. Entre autres, le journal de Roubaix, l'avenir de Roubaix-Tourcoing, l'égalité de Roubaix-Tourcoing, la croix de Roubaix-Tourcoing. et de recouper par thème ces journaux. Donc il y a effectivement l'occupation allemande à Roubaix, mais il y a eu avant Roubaix entre en République et l'exposition de 1911. Et en fait, les chroniques roubaisiennes, c'est comme une espèce d'encyclopédie de la mémoire. Voilà.
Pourquoi avoir choisi de travailler spécifiquement sur cette ville, justement sur Roubaix ?
Je ne suis pas natif de Roubaix. Roubaix, c'est ma ville d'enfance et d'adolescence. Bon, ça m'a intéressé, j'ai mis le nez aux archives un jour. L'idée, c'était, oui, j'étais au lycée, et on travaillait sur... Quand les sirènes se taisent de Maxence van der Mersch, et avec un copain, on a fouillé la presse pour voir comment van der Mersch avait travaillé. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il avait utilisé d'une certaine manière tout ce qu'il pouvait trouver dans la presse de l'époque pour écrire son ouvrage, qui mélange un peu d'ailleurs les grèves de 1921-1931. Et puis de fil en aiguille, je suis tombé dans la généalogie et j'ai eu envie d'aller au-delà des algorithmes et de mettre un peu de viande sur le squelette, quoi, à savoir que vivaient mes ancêtres, quel métier ils faisaient, où ils habitaient, et en recoupant ça avec où je vivais, c'est où ça a donné Roubaix, donc des recherches sur l'histoire de Roubaix, puis la mémoire de Roubaix. Voilà, tant que j'y ai vécu, j'y suis encore, je n'y habite plus, mais j'y suis encore par l'histoire et par la mémoire.
Les chroniques roubaisiennes, c'est trois ouvrages sortis en 2011, 2012 et 2013, au cours desquels vous retracez l'histoire de la ville. Et moi, je veux focaliser sur l'occupation allemande à Roubaix, dont vous avez parlé, qui se focalise surtout sur l'occupation de la ville par l'armée allemande pendant la guerre de 14-18. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette situation ?
Oui, alors c'est un sujet qui n'est pas souvent traité, à savoir le sujet des villes occupées. Alors, Roubaix était ce qu'on appelait une ville-étape pour les Allemands, c'est-à-dire qu'elle a été utilisée pour le repos des troupes, réparer le matériel. C'était pas une ville très éloignée du front, encore que le front a pu évoluer. D'autres villes ont connu ça, Cambrai, Douai, Valenciennes. Et donc le principe, c'est comment vivait-on quand on était occupé en 14-18, sachant que c'est largement différent de la seconde occupation. Et comme c'est un sujet qui n'était pas fort traité, je me suis dit, tiens, voilà l'occasion de donner un peu un éclairage sur cette période qui a été quand même assez dure pour toutes ces villes-là.
Comment ça vous est venu l'idée d'écrire justement sur la Grande Guerre ?
Moi, je suis un rat d'archives. Hein. Je lis la presse d'autrefois, je fouille les séries. D'ailleurs, le fonds 14-18, je ne l'ai pas exploité. Si je l'ai exploité à 25%, c'est beau. Il y a encore beaucoup de choses à y trouver. Et donc, voilà, j'ai extrait de mes lectures tout ce que je pouvais organiser. C'est pour ça que cet ouvrage a pris la forme d'un dossier pédagogique à l'usage des collégiens, lycéens et écoliers qui voudraient s'en emparer. Donc, classement par thème et ce que j'ai extrait de mes lectures et de mes découvertes dans les archives.
C'est un sujet qui vous tient à cœur, j'ai l'impression, puisque votre roman La Grande Séparation, sorti aux éditions Pôle Nord, il se passe également à l'époque de l'occupation roubaisienne par les Allemands. Est-ce que vous pensez que la Première Guerre mondiale, c'est une période qui se prête bien à l'écriture romanesque ?
Alors oui, le passage des chroniques roubaisiennes à la collection 14-18 s'est fait un peu par hasard. C'est l'éditeur Gilles Lyon qui lançait cette collection, a lu les chroniques roubaisiennes, a dit que j'étais prêt pour traduire ça dans une fiction. Quelque part, a utilisé des fonds d'archives et puis les traduire en fiction, c'est assez simple. Il faut être respectueux et c'est le cahier des charges des faits historiques. Et dedans, il y a moyen de tisser une histoire qui rende compte, là où les archives ne sont pas trop précises, de rendre compte un petit peu de la vie des familles. C'était le fil conducteur de la Grande Séparation qui respecte donc les événements, les décors. Tout est réel sauf l'histoire.
Pour la Grande Séparation, vous écrivez donc une fiction en tant qu'historien, ou plutôt passeur de mémoire, comme vous définissez. Est-ce que ça change par rapport à la vision que peut avoir un écrivain qui ne s'est pas beaucoup renseigné sur le sujet ?
Je crois que tous les écrivains se renseignent, se documentent. Si je prends le cas de Maxence van der Mersch, dont je parlais tout à l'heure, il a écrit Invasion 14, il relate la guerre 14, mais il a changé les noms des lieux, des personnes, mais il y a un petit jeu de piste intéressant à faire quand on connaît un peu l'histoire de Roubaix à cette époque. Dans son ouvrage, on retrouve effectivement qui sont les personnages, quels sont les lieux. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est documenté. D'une certaine manière, on peut dire que Céline aussi relate plus du vécu, mais c'est une manière de documentation parce que bon, il a le témoignage en lui, quoi. Donc, on n'écrit pas à partir de rien, on écrit à partir de faits, on écrit à partir de souvenirs. Et puis après, la fiction vient ensuite. Le départ, c'est effectivement l'époque, ce qu'elle pouvait donner comme événement, comme sentiment. Et à partir de là, on écrit une fiction qui se moule là-dedans, quoi. C'est pas l'inverse, on démarre pas de la fiction. En tout cas, c'est mon point de vue, puisque j'avais écrit les chroniques avant. Je n'ai eu qu'à assembler tout ça avec une fiction qui tienne debout, quoi.
On parlait de Maxence Van Der Mech et de Louis-Ferdinand Céline. Est-ce que vous savez comment se passait l'écriture romanesque pendant la guerre? Est-ce que le conflit influençait sur la manière d'écrire?
Alors, je sais pas si on a tant écrit que ça pendant la guerre. Je parlais des journaux, des personnes qui subissaient l'occupation. Mais pour ce qui est de l'écriture, bon, il faut effectivement penser qu'un nombre d'écrivains ont retraduit ce qu'ils ont vécu pendant cette période-là. Il faudrait d'ailleurs lire des deux côtés, si je puis dire. On va lire Maxence Van Der Mech, Céline, mais on lira aussi Ernst Jünger. De la même manière, on pourrait dire que ça a influencé la peinture de l'époque, le cubisme. Chez les Allemands, c'est Otto Dix. Ce qui est intéressant, c'est que le fait culturel, littéraire, artistique, est traversé par l'époque. Ça, c'est inévitable. Et je pense que ça influence, sans doute, mais en tout cas, ça traverse la production littéraire et artistique de l'époque.
Après avoir effectué vos recherches pour écrire ces romans, est-ce qu'il y a un événement de la Première Guerre mondiale qui vous est vraiment marqué lorsque vous en avez eu connaissance?
Non, moi ce qui m'a marqué quand j'ai découvert tout ça, c'est la souffrance des populations. Parce qu'il faut bien dire que les Allemands, pendant la Première Guerre, ont vampirisé cette ville, quoi. Ils l'ont pillée, ils l'ont démontée, ils ont envoyé la population creuser tranchées, ils l'ont déportée quand il y avait des résistances. C'est vraiment une période épouvantable pour la ville qui est sortie du premier conflit mondial. Complètement détruite, notamment dans son industrie. Avant la Première Guerre, Roubaix, c'était une des capitales du textile. Il a eu quelques difficultés à s'en remettre, quoi.
Est-ce que vous pensez que le devoir de mémoire est important et pourquoi?
Voilà une expression qui me titille un peu. Si on entend devoir de mémoire, par devoir de mémoire, les commémorations diverses qu'on a chaque année avec porte-drapeau, etc., bon, ça ne semble pas suffisant. Je veux dire, le devoir de mémoire, c'est pas ça. Pour moi, la mémoire, c'est chacun a une mémoire et après décide ou non de la retrouver et de s'en servir. Je m'explique. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plus de témoins pour la Première Guerre, mais il y a encore des traces. L'idée, c'est que la mémoire, il faut que chacun se l'approprie, chacun se fasse une opinion, au-delà des commémorations qui sont utiles, certes, mais qui ne donnent pas l'information pour juger de ce qui s'est passé, bon, même si le juger n'est pas le mot approprié. Par exemple, en écrivant les chroniques, je suis allé dans un temps et dans une époque, j'ai décrit des faits qui n'étaient pas forcément connus. Et je crois que c'est à chacun de retrouver sa propre mémoire au travers de l'histoire récente et plus ancienne.
Une initiative comme l'Anneau de la mémoire à la colline de Lorette, vous pensez que c'est bien?
Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Je dis simplement, c'est que nous avons tous, tout un chacun, une pratique mémorielle. On me disait, par exemple, bah voilà, ça fait que 3 ans que j'habite Roubaix, alors moi, j'ai pas de mémoire. Je dis, si, vous avez de la mémoire, vous avez 3 ans de pratique de la ville, donc vous savez, vous avez déjà des souvenirs, et rien ne vous empêche de vous intéresser, en remontant un peu dans le temps, quelle relation ça peut avoir avec ce que vous vivez maintenant. Et donc, les personnes, effectivement, n'ont pas ce réflexe, ou en tout cas cette envie d'aller creuser un peu dans leur mémoire. On comprend bien qu'on a bien d'autres choses à faire. Enfin, il n'est pas si fréquent de trouver des occasions où on peut s'exprimer sur une mémoire qui a trait à ce qu'on vit au jour le jour. Je pense au problème de voirie dans une ville, par exemple, savoir comment une rue s'est construite et comment les commerces se sont implantés et puis ont disparu, c'est pas inintéressant, quoi. Donc, voilà. Je crois qu'il faut créer des lieux, des occasions pour que ça soit fait et transmis surtout, parce que je pense que la mémoire, et je reviendrai sur le devoir de mémoire, c'est aussi la transmission par rapport à des nouveaux arrivants dans une ville ou un quartier, puis surtout par rapport aux nouvelles générations qui arrivent, quoi, qui doivent prendre connaissance de ce qui s'est passé avant eux. Et éventuellement, bon, pas que ça se reproduise, parce qu'en ce moment, la guerre, c'est quelque chose qui se rapproche, et j'espère qu'on n'en viendra pas à des conflits mondiaux comme le XXe siècle nous en a donné l'exemple.
Voilà, donc c'était Philippe Poiret sur RPL. Alors, le livre Chronique Roubaisienne est disponible chez Atramenta Édition. Vous pouvez l'acheter sur internet. C'est un très très bon livre, de très bonnes chroniques, très bien renseignées et très bien écrit.
Et tout de suite, une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on va écouter, Aurélien?
C'est ça. Là, on va s'écouter Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud, qui est tiré du film éponyme de Louis Malle, 1958. Pardon.
Et voici maintenant des lettres de Poilu issues de l'ouvrage Paroles de Poilu, Lettres et carnets du front 1914-1918.
8 août 1914. Toute la population était rue de Normandie, et les bonnes femmes nous regardaient avec un air si consterné et si désespéré que parfois on avait envie de rire. Il faisait un temps étouffant. L'après-midi a été, pour la plupart des hommes, une occasion d'aller se saouler, en sorte qu'à 17h45, au moment de rassembler la compagnie, ce fut un spectacle qui eût été comique, mais qui n'était que lamentable. Les deux tiers largement ne savaient plus où ils en étaient. Ils perdaient tout, ils bouleversaient tout, ils ne tenaient plus debout, s'amenaient à moitié équipés, en gueulant. La nuit était venue, il commençait à pleuvoir. Étienne Tanty.
J'ai toujours omis de vous dire que les Boches étaient ivres le 13 et 14 juillet. Leur élan était beau, mais ils se brisaient au bout de notre baïonnette. Comme des fous, ils avançaient sans se rendre compte du danger. Ce n'étaient plus des soldats qui se dissimulaient lors des premiers jours de la guerre, c'étaient des hommes qui marchaient en avant, offrant à nous tout leur buste. Et ce fut une supériorité écrasante sur eux. L'alcool qu'ils avaient absorbé devait renfermer certains produits car les morts étaient gonflés et noirs comme du charbon, après être restés 2 jours sur le terrain. Ce fait ne s'est point produit sur les nôtres. Ils venaient de Metz et ces soldats équipés de neuf... Ils venaient de Metz et ces soldats équipés de neuf avaient 17 à 20 ans. Émile Sautour, le 5 août 1915.
Et Aurélien, tout de suite, tu vas nous parler d'une tranche d'histoire oubliée de tous.
C'est ça, malheureusement un peu trop occultée. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des tirailleurs sénégalais. Alors du coup, qui sont les tirailleurs sénégalais ? C'est une question légitime, puisque malheureusement, je trouve que ces derniers sont assez peu connus du grand public et malheureusement trop souvent occultés du devoir de mémoire de la Première Guerre mondiale. Alors que pourtant, ce corps militaire de l'armée française y joua un rôle important pendant le conflit. Du coup, pour l'historique, c'est en 1857 que le général Louis Federbe y fonde ce corps militaire. Celui qui est encore que chef de bataillon à l'époque est pourtant déjà gouverneur de la colonie française du Sénégal. Du coup, ce que Louis Federbe va faire, c'est qu'il va piocher parmi les populations africaines des colonies françaises, et il va constituer ainsi la première armée coloniale. Faut savoir que le but initial de cette armée, à la base, c'est de garantir l'ordre dans les territoires colonisés par la France. Alors pourquoi ce nom de tirailleurs sénégalais ? Bah simplement parce que le premier régiment de ces soldats, il est créé au Sénégal. Mais il faut savoir que par la suite, le recrutement des troupes, il va beaucoup s'élargir à tous les autres pays coloniaux de l'Empire français. Du coup, on retrouvera petit à petit dans les rangs de cette armée des hommes d'Afrique subsaharienne, mais également d'Afrique équatoriale et occidentale. Évidemment, il faut noter que les tirailleurs sénégalais ne furent qu'un des régiments de l'infanterie française coloniale qui compta également des tirailleurs algériens, indochinois et puis les fameux zouaves. Du coup, au total, c'est plus de 200 000 tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France pendant la Première Guerre mondiale. 135 000 sont partis se battre en Europe contre l'Allemagne et on estime à 30 000 le nombre de ceux qui y perdirent la vie. Faut pas oublier que parmi les régiments les plus décorés de l'armée française au cours de la guerre de 14-18, il y a beaucoup de régiments tirailleurs sénégalais. Donc c'était loin d'être de la chair à canon comme le veut la croyance populaire. Beaucoup de tirailleurs sénégalais sont de vrais héros de guerre. L'armée coloniale, elle va retourner au front lors de la Seconde Guerre mondiale. Parmi elles, 40 000 tirailleurs sénégalais sur le continent. Alors bon, j'ai dit au début de ma chronique qu'ils étaient un peu occultés du devoir de mémoire. C'est vrai que c'est pas ceux auxquels on rend plus fréquemment hommage. Mais heureusement, il y a quand même des initiatives qui sont faites en leur honneur. Encore récemment, il y a des plaques et des monuments commémoratifs de leur mémoire qui sont inaugurés. Et ça, c'est bien. Ça permet que jamais ne disparaîtront les mémoires de ces soldats qui donnèrent quand même leur vie pour la France, et la France, c'était pas leur pays d'origine. Dernièrement, il y a un mémorial en leur honneur qui a été érigé sur le site du Chemin des Dames, ça c'est dans l'Aisne. Et sinon, en avril dernier, le président de la République a reçu à l'Elysée 28 anciens tirailleurs sénégalais qui avaient pour la plupart combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Les anciens combattants ont été naturalisés français, une chose qui n'avait toujours pas été faite depuis 70 ans. Ça, c'est un geste hautement symbolique qui répare une injustice vieille de 60 ans.
Très bien, merci Aurélien. Et tout de suite, on va écouter Charles Trenet, 12 francs sur RPL.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix
des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ce poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Mémoire de guerre continue sur RPL, les médias, il y a 100 ans, comment ça se passait? C'est ce que tu vas nous expliquer, Tristan.
Exactement, à l'heure où l'espace médiatique joue un rôle clé dans la géopolitique et la diplomatie, j'ai cherché à savoir quelles fonctions ont eu les médias il y a 100 ans, durant la guerre 14-18. Pour ce faire, nous avons rencontré Jérôme Roudier, enseignant-chercheur en histoire à la faculté de lettres de l'Université catholique de Lille. Il nous parle des médias durant cette première guerre mondiale.
L'espace médiatique en France, en fait, il y a essentiellement des journaux écrits qui se divisent en fait en deux grandes parties. Une partie sur la capitale, Paris, où là vraiment on a une presse énorme. C'est énorme le nombre de quotidiens, c'est plusieurs millions. On a quatre quotidiens qui tutoient le million d'exemplaires chaque jour. Et une presse de province qui se porte également extrêmement bien. Grosso modo, si vous voulez, l'idée, c'est quand même que tous les Français lisent leur journal. C'est la presse écrite qui structure le paysage et on discute beaucoup à partir des journaux, dans les cafés, dans les rues. Le journal est vraiment le support de la discussion, en fait.
Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de grands médias, des grands journaux de l'époque?
Le Figaro, par exemple, mais il faisait pas partie des journaux à plus fort tirage. Je crois qu'il y avait quelque chose qui s'appelait Le Matin. Enfin, c'est tous des journaux, en fait, qui ont disparu et dont on se souvient particulièrement parce que dans les années 1900, les rédacteurs en chef avaient pour consigne, on va dire, de dire à leurs journalistes faites bête, touchez un public le plus large possible, notamment pour les grands quotidiens. Et en fait, il faut abaisser le niveau pour toucher le plus de gens possible, sachant que, en fait, les grands journaux comme l'Aurore de Clémenceau, etc., qui eux ont un contenu, touchent en fait un public moins large. Ils sont rentables, mais ils sont pas mainstream, comme on dirait aujourd'hui.
À cette époque-là, en France, quelle partie de la population consulte les médias?
À peu près tout le monde. À peu près tout le monde. En tout cas, tous les hommes ont été alphabétisés. Les femmes, c'est quasiment acquis aussi, même si c'est peut-être moins rentré dans les mœurs à l'époque. Donc, tout le monde lit. Tout le monde peut lire la presse. Tout le monde, au moins, en discute. Et les grands quotidiens, justement, à très fort tirage, ont su capter un public pas forcément, justement, de l'élite intellectuelle. Donc, tout le monde lit.
À cette époque-là, on parle également de journaux de tranchées. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus ?
Oui, alors c'est un phénomène un petit peu complexe. C'est que, en fait, les grands médias, justement, ont très mal couvert la guerre. En tout cas, sur sa réalité quotidienne, sur la réalité quotidienne des poilus. Tout le monde connaît les images d'Épinal où on voit un poilu dans une tranchée toute propre, tout va bien, etc. Bon. Donc, du coup, quelque part, les poilus ont senti la nécessité de raconter leur vécu. Pas forcément, d'ailleurs, dans une perspective, comme on pourrait le penser aujourd'hui, contre-culture ou en opposition. Non, c'est plus visiblement un besoin tout simplement de témoigner, de dire ce qui se passe. Alors certains font des photos, récupèrent des appareils photos qui sont parfois donnés par des rédactions de journaux qui leur demandent justement de prendre des photos. D'autre part, évidemment, bon, bah, y a ces journaux qui sont plus ou moins faits par les poilus eux-mêmes, alors à destination parfois aussi d'eux-mêmes, parfois de l'arrière, c'est assez variable. Comme toujours dans les situations un petit peu de crise et où les médias sont censurés, bah, c'est le règne de la débrouillardise, c'est le règne du système D. Donc ça part un peu dans toutes les directions puisque c'est pas véritablement structuré par ne serait-ce qu'une, par exemple, des principes de rentabilité. C'est évidemment pas leur problème.
On a vu aussi apparaître à ce moment-là les premières actualités filmées. En quoi est-ce que ça consistait aussi ?
Là encore, le cinéma, bon, il n'en est plus assez balbutiement quand même. Enfin bon, grosso modo, il s'agit, là encore, de montrer la guerre aux gens de l'arrière qui vont encore au cinéma, donc surtout dans les grandes villes, bien sûr, et de leur montrer, de leur donner une image présentable de la guerre. Ça fait partie du dispositif, on va dire, global, typé assez français, où l'État veut tout contrôler. La Troisième République veut contrôler l'information, elle a véritablement peur à la fois d'une cinquième colonne allemande, d'une désinformation, et donc elle désinforme l'information afin d'éviter la désinformation, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des choses d'ailleurs qui coûteront assez cher à la presse dans l'entre-deux-guerres, elle perdra son crédit. Donc les actualités filmées, bon voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez sommaire tout de même, mais sur lequel l'État perçoit qu'il y a un enjeu.
Est-ce qu'on peut parler de propagande médiatique de la part de l'État ?
Oui, objectivement, mais le terme propagande, comme il est associé au Troisième Reich, à la Seconde Guerre mondiale, il faut faire attention. C'est de la propagande, mais je dirais qu'elle est en quelque sorte naïve. C'est-à-dire que c'est véritablement le poilu tient au front, il faut qu'à l'arrière ça tienne aussi. Vous voyez, c'est du premier degré. Il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas non plus véritablement de volonté de manipuler l'opinion. Vous voyez, c'est pas leur faire croire quelque chose. C'est leur faire croire quelque chose, mais dans l'intérêt collectif qui est l'intérêt de la nation. Il y a une forme de naïveté, je pense, quelque part. Comme dans le Troisième Reich nazi, il ne s'agit pas derrière d'aller désigner les juifs comme étant le bouc émissaire de tous nos maux. Il s'agit de tenir, de gagner cette guerre. Tout le dispositif de censure, d'ailleurs, n'est pas prévu pour durer 5 ans, puisque la guerre doit être courte. Donc il dure, mais faute de mieux. Parce que une fois que vous avez décidé de censurer, ça devient difficile d'un seul coup de décider de ne plus censurer. Vous voyez ce que je veux dire ? Les effets seraient potentiellement totalement délétères. Donc l'État français se trouve un peu pris pieds et mains liés dans ce dispositif qu'il n'a pas vraiment inventé, en plus qu'il a repris des régimes autoritaires de la fin du 19e siècle, de Napoléon III, etc. Tout ça est un peu marqué, je dirais pas par l'improvisation, mais par l'impréparation. Il n'y a pas eu de réflexion de l'État sur les médias. Il n'y a pas eu une réflexion en amont pour se dire, bon, la guerre va arriver, comment est-ce qu'on peut gérer ça, etc. Il n'y a pas non plus l'expérience anglaise, au même moment, où les Anglais, finalement, ont décidé de faire confiance, grosso modo, à leurs médias, en partant du principe, d'ailleurs, exact, que les médias sont plutôt patriotes. Donc ils ne vont pas raconter non plus n'importe quoi. Et donc, de ce fait, il n'y a pas forcément besoin de vouloir tout contrôler, tout censurer, etc.
Alors, est-ce que dans cette mesure-là, on peut parler d'une forme de coopération entre la presse et l'État ?
Le terme serait efficace si la presse était libre. Là, c'est pas vraiment de la coopération. Alors oui, sans doute, à l'époque, ça a été perçu comme tel. Les journalistes n'ont pas senti la censure pour ce qu'elle était, mais plutôt comme un acte patriotique. Maintenant, il y a des contre-exemples. Le Canard enchaîné naît justement pendant la Première Guerre mondiale, en réaction à la censure, et quelque part pour en montrer l'absurdité. Le ton déjà satirique, antimilitariste, certes, vient de cette situation où cette censure, de toute façon, ne fonctionne plus. Enfin, les Français, au bout de 2 ou 3 ans de guerre, ont parfaitement compris que la guerre est une horreur et une boucherie. Ils voient bien les gens ne pas revenir. Ça devient absurde.
Une forme de média qui est apparue à ce moment-là et qui a joué un rôle clé, c'est les relations épistolaires. Comment est-ce que l'armée a géré les lettres qui partaient des tranchées ?
A priori, il y a eu une censure, à nouveau, assez forte. Mais c'est pareil, c'est difficile à mesurer. Alors, j'ai pas eu, pour l'instant, l'occasion de regarder de près, justement, des ouvrages universitaires approfondis sur la question, parce que quelle est la part de censure, quelle est la part d'autocensure ? Comment voulez-vous, dans une carte postale, raconter l'horreur des tranchées ? Enfin, à un moment donné, on est à la limite de l'indicible. En plus, ces hommes ne sont pas tous des hommes de lettres. Déjà, pour un homme de lettres, ce serait pas forcément évident. Vous imaginez bien que l'agriculteur moyen qui a l'occasion d'envoyer un mot à sa famille, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va leur dire ce qu'il vit véritablement, ou est-ce qu'il va tenter de les rassurer, ou est-ce qu'il va crier son désespoir, mais à quoi bon ? Donc ça donne cette espèce d'ensemble qu'on appelle les lettres de Poilu, qui sont extrêmement émouvants, et dans lequel, en fait, finalement, la part de la projection du lecteur est presque aussi importante que la part d'écriture du Poilu lui-même, qui, de toute façon, se trouve dans une situation ingérable en termes de, même, tout simplement, de communication. Être émetteur dans une situation comme celle-là, c'est... Enfin, on peut même pas se représenter ce que c'est. Enfin, moi, j'en suis incapable.
Est-ce que les lettres qui arrivaient dans les tranchées étaient aussi contrôlées de sorte à gérer le moral des troupes ?
Oui, plus ou moins, mais là encore, en fait, si vous voulez, bon, il y a évidemment une part de contrôle et de censure, mais je pense qu'elle n'est pas très énorme. Imaginez-vous, vous êtes à l'arrière, vous écrivez à votre père, votre frère, votre mari, votre amant qui est au front. Bon, de toute façon, que voulez-vous faire ? Tiens, bon, je t'aime. On peut rien écrire d'autre. Quand bien même, d'ailleurs, vous avez décidé de le quitter, peu importe, en fait, c'est ingérable. Il y a une trop grande distance en termes de kilomètres, déjà, mais aussi une trop grande distance entre les deux formes d'existence. En plus, peut-être un certain nombre de personnes ne comprenaient pas véritablement ce qui se passait au front, mais je pense que c'est pas tant... le terme comprendre n'est pas exact. On peut parfaitement comprendre les tranchées, et même à l'époque, mais enfin, cette expérience n'est pas... On peut pas s'y plonger si on l'a pas vécu. C'est trop abominable. Même quand vous voyez un film de guerre, etc., de toute façon, ce ne sont pas vos camarades, ce sont pas les gens qui sont à côté de vous qui tombent tués par des balles. Donc, en fait, c'est une expérience qu'on ne peut pas vivre. Tout ce qui est communication, et en particulier communication par des non-spécialistes, devient en fait... quelque chose d'extrêmement extrêmement complexe, extrêmement limité, puisque là encore, à travers les mots, passent des choses extrêmement propres aux individus, à l'intime. Et en fait, c'est sans doute ça qui est le plus touchant, le plus intéressant, mais en même temps le plus difficile aussi à mesurer.
Avec aujourd'hui 100 ans de recul, qu'est-ce qu'il faut retenir des médias pendant la Grande Guerre ?
Pas déjà que la censure est une aberration, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas et ça a même des effets contre-productifs monstrueux, puisque de toute façon, c'est pas grâce à la censure que le moral des Français a tenu. Hein, le moral des Français a tenu essentiellement parce que là, il y avait une propagande de la Troisième République sur la revanche qui datait de plus de deux générations, qui était omniprésente et qui était partagée par l'ensemble de la société. C'est ça qui a fait que ça a tenu. La presse a été extrêmement critiquée après la Première Guerre mondiale, justement parce que la censure est allée trop loin à vouloir ne pas parler de la vérité et de la réalité la plus concrète de ce que vivent des millions de personnes. Enfin voilà, c'est absurde, c'est une aberration. Donc ça, c'est le grand enseignement, c'est qu'il faut, et ça a été surtout l'objet d'une réflexion des militaires qui a porté ses fruits après la Seconde Guerre mondiale. Il faut avouer que les militaires ont été assez aveugles, ayant gagné la Première Guerre mondiale. Enfin, ils ont complètement raté l'après Première Guerre mondiale sur tous les plans, aussi bien stratégiques, mais justement communicationnels. Mais bon, ça a été une vraie leçon sur ce point, et on le voit chez les militaires. Il y a l'idée que le contrôle de l'information ne signifie pas la censure de l'information. C'est juste contre-productif. Il faut que les gens comprennent. Ils doivent comprendre. Je pense que c'est la grande leçon de la Première Guerre mondiale, c'est que Anastasie, comme on appelle la censure à l'époque, non seulement ne sera rien, mais ridiculise l'État, éventuellement ridiculise l'armée, donc a vraiment des effets négatifs infiniment supérieurs à l'intérêt qu'on imaginait qu'elle pourrait avoir.
14-18, un moment charnière de l'évolution et l'histoire des médias ?
En France, oui, même si, en fait, les bonnes conclusions de la guerre de 14-18 seront tirées après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a, en même temps, c'est à la fois charnière et en même temps un rendez-vous raté. On aurait pu tirer la conclusion que ça n'avait servi à rien, que c'était contre-productif, mais comme on gagne la guerre, du coup, on ne le fait pas. Mais par contre, la population le fait, commence à se méfier des médias, on rentre en fait dans ce grand moment qui, à mon avis, dure toujours, de défiance entre la population et la presse, où la population, même pas forcément extrêmement érudite, monsieur tout le monde, se méfie de ce qu'il entend. Ça peut aller jusqu'aux théories du complot, etc. Vous prenez la guerre de 14-18, il n'y a pas besoin de théorie du complot, tout va bien, quelque part, il y a complot. Entre l'état-major, l'état, il y a complot pour ne pas dire ce qu'il se passe. Avec ce manque d'imagination qui consisterait quand même à proposer autre chose, et là, on propose des photos comme si tout était en temps de paix, comme si tout se passait bien, etc. C'est proprement délirant.
L'espace médiatique, un véritable morceau d'histoire de la Grande Guerre. Je vous invite également à vous pencher sur l'importance des cartes postales en 14-18. Elles mettaient en scène les poilus sous forme de photos, mais racontaient également l'horreur des tranchées. C'est France TV qui vous le raconte dans son documentaire Les cartes postales durant la guerre, et c'est à retrouver sur le site culturebox.francetvinfo.fr.
drift. So got you and Charlie in that newspaper nest, grifting a hot horse tips on who's running the best. And I'm blinded by the neon. Don't try and change my tune. Cause I thought I heard a saxophone. I'm drunk on the moon. The moon's a silver slipper. It's pouring champagne stars. Broadway's like a serpent pulling shiny top-down cars. Larimer is teeming with that undulated beat as some Bonneville is screaming his way wildly down the street. And I'm blinded by the neon. Don't try and change my tune. I thought I heard a saxophone. I'm drunk on the moon.
On est de retour sur l'antenne d'RPL. Alors Aurélien, est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer qui est-ce qu'on vient d'entendre ?
On vient d'entendre Tom Waits, qui est un artiste de, je sais pas trop, de jazz, rock américain, très bon parolier, avec une voix très grave.
Comment la Grande Guerre a-t-elle été vécue ? Que reste-t-il dans les mémoires de chacun ? Des souvenirs, des anecdotes ? C'est ce que Tristan a souhaité savoir. Écoutons le témoignage qu'il a recueilli.
Bah écoutez, moi j'ai un grand-père qui a été blessé à la guerre, donc malgré tout, ça je m'en souviens, hein, il avait une balle dans la joue qui lui est restée jusqu'à sa mort, on l'a jamais enlevée. Le front, je sais pas quel âge il pouvait avoir, il était né en 83, alors 14-18, il avait une trentaine d'années.
Et Tristan, maintenant tu vas nous parler de l'AFS, une association de voyage linguistique qui doit sa création à la Première Guerre mondiale.
Exactement, alors AFS est une organisation de voyages linguistiques destinée aux jeunes du monde entier. Ce réseau planétaire fonctionne avec un système de familles d'accueil bénévoles disposées à ouvrir leur maison à un lycéen étranger. Rien qu'en France, tous les ans, ce sont 430 jeunes du monde qui sont accueillis dans nos familles contre 400 Français qui tentent l'aventure à l'étranger. Mais AFS est une vieille dame désormais centenaire qui tient son origine de la guerre 14-18. Et oui, AFS en anglais, ça signifie American Field Service. Tout commence en 1914, au début de la Grande Guerre. La France est assaillie et les blessés commencent à affluer. À l'hôpital américain de Paris, on commence à manquer de place et de bras. C'est le lycée Pasteur, alors inachevé, qui va se transformer en infirmerie géante, et des médecins de renom viendront des grandes universités américaines pour apporter leur aide. En 1915, les ambulanciers américains circulent continuellement des gares ferroviaires aux hôpitaux de Paris, mais très vite, ils obtiennent l'accord de l'armée pour travailler directement sur le front et rapatrier les blessés. C'est la naissance de l'American Ambulance Field Service qui deviendra American Field Service, AFS. L'association prendra ses quartiers au 21 rue Raynouard au cœur de Paris. Très vite, elle lance ses unités de transport par camion. En avril 1917, lorsque l'armée américaine entre officiellement en guerre, les bénévoles seront intégrés dans les rangs militaires. AFS aura joué un rôle clé dans l'amitié franco-américaine. Après la Grande Guerre, des systèmes de bourses universitaires et d'échanges linguistiques sont mis en place afin de cultiver les liens entre les deux pays. Durant la Seconde Guerre mondiale, les ambulanciers d'AFS seront sur tous les fronts et contribueront notamment à l'évacuation du camp de Bergen-Belsen. Depuis 100 ans, AFS est devenue une référence en matière de programmes interculturels et œuvre pour la paix entre les nations. Les jeunes du monde entier ont désormais la possibilité de découvrir le pays de leur choix et d'apprendre une nouvelle langue. Et bien de là où ils sont, les ambulanciers de la guerre 14-18 doivent être fiers de ce qu'ils ont accompli.
Très bien, merci Tristan. Et tout de suite, on va écouter Florent Pagny, Le Soldat. Il y a une histoire derrière ce titre.
Exactement, c'est un titre qui est sorti en 2013, tiré de son album « Vieillir avec toi ». Je vous invite à aller voir le clip sur YouTube qui met en scène un poilu dans les tranchées. On peut y retrouver des images du mémorial de Douaumont en mémoire du centenaire de la bataille de Verdun. Vous êtes dans Mémoire de guerre sur RPL, Florent Pagny, Le Soldat, on écoute.
À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. La 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La 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 la. Et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. La 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 la. Et surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. Tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat. La 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 la. Je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi. La 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois, je ne suis qu'un soldat. La 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 la.
Le soldat, vous venez d'écouter Florent Pagny sur l'antenne d'RPL. Et on termine Mémoire de guerre par notre agenda, les temps forts proposés dans la région ce mois-ci, dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Alors Aurélien, tu nous as trouvé un rendez-vous à ne pas rater.
Oui, à Boulogne-sur-Mer. Alors donc, vous le savez peut-être pas, mais juin 1917, c'est un tournant de la Première Guerre mondiale, puisque c'est à cette période que les États-Unis affirment leur entrée en guerre du côté de la Triple Entente. Alors pour vous rappeler vos cours de 3e, la Triple Entente, c'est l'alliance militaire entre la France, le Royaume-Uni et la Russie impériale, si opposée à la Triple Alliance de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire Ottoman. Du coup, officiellement, la déclaration de guerre américaine contre l'Empire allemand, elle est votée par le Congrès le 6 avril, mais bon, en fait, les premiers Américains, ils arrivent seulement en juin sur le sol français. Le 13 juin, très précisément, 177 soldats débarquent à Boulogne-sur-Mer. Et leur arrivée, elle provoque une sacrée liesse populaire. Puisque parmi eux, il y a le général John Pershing, qui est ni plus ni moins que le commandant en chef du corps expéditionnaire américain. Alors pour célébrer la mémoire de cet événement, le musée de la ville de Boulogne-sur-Mer organise l'exposition Le Moment Pershing jusqu'au 11 novembre. On pourrait y retrouver des documents, des films, des photographies et des objets qui proviennent à la fois de la collection boulonnaise, ainsi que des archives nationales françaises, anglaises et américaines. Et sinon, mercredi 21 juin, il y a le documentaire Les Américains dans la Grande Guerre, qui sera projeté en avant-première dans la ville. Ce sera à 19h à la gare maritime de Boulogne-sur-Mer et l'entrée est gratuite.
Très bien, et alors Tristan, toi aussi t'as un temps fort à nous proposer.
Pour ma part, je vous invite à aller jeter un œil à l'exposition « Quand la Chartreuse était belge » du côté de Neuville-sous-Montreuil, c'est dans le Pas-de-Calais. Alors la Chartreuse, c'est ce fameux monastère fondé au XIVe siècle qui s'est transformé en hôpital durant la guerre 14. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, les réfugiés belges venaient se faire soigner à cet endroit, transformant donc la Chartreuse en véritable petite ville durant 4 ans. L'expo « Quand la Chartreuse était belge », c'est jusqu'au 1er novembre 2018, vous avez encore le temps. Plus d'informations sur www.lachartreusedeneuville.org.
Merci Tristan. Et une autre exposition au musée Lens 14-18 jusqu'au 12 novembre. Elle est intitulée Vimy 1917, la guerre souterraine des Canadiens. Ça parle d'un aspect qui reste peu connu du grand public. Il s'agit de la guerre souterraine qu'ont livré les soldats réfugiés dans les entrailles de la terre pour se prémunir de la puissance meurtrière de l'artillerie. C'est une exposition à voir en ce moment au musée Lens 14-18, centre d'histoire guerre et paix, et ça se passe à Souchez. Merci Tristan et Aurélien d'avoir été avec nous pour cette émission. Mémoire de guerre, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve à la rentrée pour un prochain numéro. Restez branchés sur RPL. On se quitte en musique avec Frank Sinatra comme Fly With Me. Restez branchés. Tout de suite, c'est Rock Pop Live avec Darnaud. Et avec lui, une invitée très spéciale, Élodie Martelet. Bonne écoute sur RPL.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. Perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away.
Once I get you up there where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together weather-wise. It's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La Vie en Rose.